On va commencer aujourd'hui une série de cours, Bezrat Hashem, deux ou trois cours, sur le thème de Lo Bashamayimhi. Lo Bashamayimhi, ça veut dire que la Torah n'est pas dans le ciel. Donc on va amener différentes Gemarot, et après on passera par le Rambam, par le Rida, par un livre qui s'appelle Shelot Utshuvot Min Hashamayim, Responsa du ciel, par différents poskim, Shulchan Aruch. C'est-à-dire on va essayer comme ce qu'on a fait la dernière fois. Chut, les enfants, silence. C'est bon. On va essayer de retracer le principe de Torah Lo Bashamayimi. Est-ce que la Torah est dans le ciel ou la Torah n'est pas dans le ciel? Alors, avant de passer à ça, je vais faire comme une petite introduction. On a ici une introduction dans la Gemara. Donc on a la référence numéro dans la page 1. Quelque chose qui a priori n'a aucun rapport, mais on va voir qu'il y a un rapport. Amar Rav Yehuda a dit Leolam Yehadam Zahir Bitvoa Betor Beto. Un homme doit toujours faire attention à la récolte dans sa maison.
Pourquoi elle est grande petite, la mienne?
D'accord. C'est en haut.
J'ai l'animal à la mienne.
Bah, la vérité, c'est que je devais donner à Yves. Yves va nous faire, si tu veux, pour la prochaine fois en A3, parce que moi, je peux pas imprimer en A3. Mais bon, tant que je suis revenu de New York, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc, Rav Yehuda a dit, « Leolam yadam zahir bitvoa betor beto. » Un homme doit toujours faire attention à la récolte betor beto dans sa maison. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire attention à la récolte, faire attention à ce qui se mange à la maison et qui est toujours à manger. Pourquoi? She'en meriva metsuya betor beto shaladam, puisque la dispute vient dans la maison d'un homme, et là, elle est de voix, seulement à cause de tout ce qui est lié à la récolte, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la nourriture. C'est-à-dire que la majorité des problèmes viennent à cause de la parnassa, à cause qu'il n'y a pas à manger, à cause qu'on n'a pas assez de quoi vivre. D'accord? Chez Neymar, comme c'est écrit, Assam Gevuler Shalom, Chelef Ritim Yesbier. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Dieu dit que Assam Gevuler Shalom, Dieu il amène le shalom chez nous, et comment il fait pour amener le shalom? Chelef Ritim Yesbier, il nous amène le blé. C'est-à-dire que le blé amène le shalom. Et d'ailleurs, il y a une autre Gemara qui dit aussi que la majorité des guerres qui entre les pays, d'accord, c'est à cause, encore une fois, du pain.
C'est dans le mot la guerre.
D'accord.
Il y a le mot guerre, mon ami.
Donc, Amar Rafapa a dit, Aïnou Damrinche, Kimishalem, Seare Michida, Naki, je vais à Tetigra, BBT. C'est ce que les gens disent, que quand on paye son blé pas cher, quand on paye son orge pas cher, c'est-à-dire qu'on veut économiser. Non, on veut payer, au lieu d'acheter du blé, t'achètes de l'orge. Et même l'orge, t'achètes de l'orge pas cher, qu'est-ce qui se passe? Va à Tetigra, BBT, c'est ce qui amène à Marloquette dans la maison. Ça veut dire que là, on a quelqu'un qui veut acheter à la maison, mais qui veut faire des économies sur la qualité de ce qu'il va acheter à la maison. Et il y avait un proverbe à l'époque qui disait, celui qui achète de l'orge, et qu'en plus il achète de l'orge pas cher, ça amène la marloquette à la maison. Donc, faut faire attention à ce qu'on amène à la maison. Faire attention à ça, à la qualité aussi de ce qu'on amène à la maison. Parce que c'est ce qui amène la marloquette à la maison. C'est une première chose.
Mais il parle de la femme,
hein?
Ah,
il parle de l'homme, là.
Il parle de la femme. Pourquoi l'homme amène le marquette chez lui-même?
C'est lui qui amène l'oseille.
Chez lui-même.
Justement, c'est lui qui amène l'argent, comme il dit.
C'est par rapport à sa femme.
Oui.
La marquette, elle est avec sa femme.
C'est lui qui amène l'argent et c'est lui qui va donner l'argent à la femme pour acheter.
Pourquoi tu as acheté de l'or? On veut du blé.
Ben non.
Peut-être que ça va générer des problèmes ailleurs.
Non.
Ça va générer une marquette ailleurs.
Non, la marquette ici, c'est l'homme qui donne l'argent. C'est lui-même, bien sûr. D'accord. C'est ça qu'on parle. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. Alors, Vamar Rafrina Barpapa. Rafrina Barpapa. En fait, ça n'a pas vraiment un rapport avec le Bashamayimi, mais bon, j'ai mis quand même ce morceau parce que c'est juste avant le morceau de la Gemara qui va en parler, qui va nous intéresser, mais bon, c'est quand même intéressant. Donc, Vamar Rafrina Barpapa dit, Leolam Yadam Zahir Bidvoa Betor Beto. Un homme doit toujours faire attention, donc également à la récolte qu'il y a chez lui à la maison. Et lui, il amène une autre référence. Il dit pourquoi? Chez le Nikreou Israël Dali, mais là, les skets voient. Que quand le prophète a appelé les juifs de pauvres, pourquoi il les a appelés pauvres? C'est parce qu'ils n'avaient pas assez de récolte. Pourtant, ils avaient beaucoup de liquidité, mais ils n'avaient pas assez de récolte. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vayaim Zera Israël Vegomer, Ukti Vayachanu Alem, Ukti Vaidal Israël Meod, Mifte Midian. Bon, trois versets dans lesquels on voit que la pauvreté, c'est lié à la nourriture. De là, on voit que si on a des gens qui sont très riches mais qui ne mangent pas assez bien, pour la Torah ils sont considérés pauvres. Donc faut faire attention pour rendre heureux quelqu'un et pour pas avoir le moins de marloquettes possible à la maison, il faut s'assurer qu'on mange bien à la maison. Quand on mange bien, ça évite déjà la majorité des marloquettes.
D'accord. J'ai des bonnes adresses.
Même la poubelle elle doit bien manger. Un peu de gros alors.
Non, j'ai pas dit de gros, j'ai dit bien manger, c'est-à-dire manger correctement. Et quand une famille mange bien, il y a beaucoup moins de marloquettes. Parce qu'après, les autres choses, ça passe beaucoup plus facilement. C'est ce qu'a dit la Gemara. C'est dit que même, il y avait des périodes dans lesquelles le Ham Israël, ils avaient de l'argent, mais ils ne faisaient pas assez attention à ce qu'ils mangeaient. Et le Navi les appelait pauvres. Et ils étaient pauvres dans leur tête. Va amar Rabbi Chelbo. Rabbi Chelbo a dit, le olam y a adam zahir bichvod ishto. Un homme doit toujours faire attention au kavod de sa femme, à l'honneur de sa femme. She'en bracha metsuya betor beto shel adam. Donc on parle de l'honneur de sa femme. C'est pas seulement qu'il faut la gâter, etc. C'est évident. D'accord? On te dit, il faut faire attention à l'honneur de sa femme. Pas qu'il lui dit, bon, tiens, je te donne et tais-toi. Non, ça marche pas comme ça. Faire attention au kavod de sa femme. She'en bracha metsuya betor beto shel adam et la bishvil ishto, puisque la bracha arrive dans la maison d'un homme seulement par sa femme, seulement pour sa femme. Chez Neymar, comme c'est écrit, même Abraham, parce qu'on a une personne mieux qu'Abraham, où l'Abraham est-il Bahavoura, que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a donné tout ce qu'il a donné à Abraham, donc toutes les richesses qu'il a eues, Bahavoura, pour elle, pour qui pour elle, pour Sarah. Vaïnou, Dehamar Leu Rava, Livne Mechouza, et avec ça on comprend ce que Rava disait toujours aux gens de la ville quand il passait les voir, aux gens du village, il leur disait, Okiru Lin Shaihu, donnez du kavod à votre femme, à vos femmes, qui est ri des titres à roux, d'accord? Comme ça, grâce à ça, c'est vous-même, vous allez voir, vous allez vous enrichir, et vous allez vous-même vous sentir mieux. Il y a une autre Gemara dans laquelle on dit aussi qu'une personne qui manque de respect à sa femme, en vérité, il se manque de respect à soi-même.
Une partie de lui-même.
Ah oui. Non, pas seulement pour ça. Pas seulement pour ça, parce que c'est sa femme. Donc lui, il croit qu'il manque de respect à sa femme. En vérité, sa femme fait partie de son foyer. Donc quand il manque de respect à sa femme, en vérité, il se manque de respect à lui-même. D'accord? Bon. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Parenthèse, mais bon, j'ai pas voulu sauter parce que je pense que c'est intéressant quand même.
Petite, mais cochonnerie.
Ouais. Non, on va rentrer dans le vif du sujet. Nanatam, c'est enseigné là-bas, donc dans le traité Kélim. Alors, on va parler d'un cas, d'un four. D'accord? C'est ce qu'on appelle le Tanour Shel Achnaï. Donc c'est un cas qui est très connu, c'est un cas d'école dans la Gemara. Et quand on vous entendrait parler très souvent du four de Achnaï. Justement, on va en parler. Alors, c'est quoi ce four? C'est un four qui est composé de morceaux. C'est-à-dire comme ça. C'est pas comme en argile. Les fours en argile, c'est, on va former un seul morceau, ou bien quelques morceaux, mais bon, il n'y a pas beaucoup de morceaux, puisque on va le former en terre, d'accord, en argile, et après on va le mettre dans le four, et le four, bon, dans le feu, et donc le feu va cuire tout ça. Là, on a un four particulier. Pourquoi? C'est un four qui est fait avec ce qu'on appelle en hébreu des chouliotes. Rouliotes, c'est-à-dire c'est comme des morceaux qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc, imaginez-vous un four, peu importe la matière, qui est fait donc avec des morceaux qui s'emboîtent les uns dans les autres, et après on le passe au feu, d'accord? Et le feu va consolider tout ça. Donc ça peut être en métal, ça peut être avec tout ce qu'on veut. Ça veut dire que il n'est pas en argile, mais la méthode de fabrication ressemble beaucoup à l'argile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il y aura une machlokatit dans la Gemara. Il y aura une machlokatit dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir comment on doit considérer ce four. Parce que, halakhiquement parlant, par rapport à l'impureté, c'est pas la même chose si on considère ce four comme un four en ferraille ou ce qu'on veut, ou si on le considère comme un four en argile. C'est pas la même chose. Le problème, c'est qu'ici, on a un four qui n'est pas en argile, mais que la méthode de fabrication ressemble à l'argile. Donc, chatro chouliot. S'il a coupé chouliot, ça veut dire que donc, c'est un four qui est en morceaux. Venatan chol ben chulia et chulia, et il a mis donc du sable entre chaque morceau, et après il a passé au feu pour consolider tout ça. Donc c'est une méthode de fabrication de l'époque. C'est-à-dire que la méthode de fabrication ressemble à l'argile, mais c'est pas de l'argile. On est d'accord?
C'est quoi, là?
Donc, voilà, par exemple, tu prends plusieurs morceaux de bois.
L'important, c'est pas de l'argile.
Par exemple, du bois. Tu vas les coller, donc tu vas coller les morceaux ensemble.
Avec de la terre?
Avec quoi? Avec de la terre ou avec du sable? Non, justement. Mais là, le problème, c'est que le four n'est pas en argile. Mais c'est que l'argile va être utilisée uniquement pour coller les morceaux.
Voilà. Ça, c'est l'argile.
D'accord.
Ce qui colle les morceaux.
Bien sûr.
Si ça n'était pas de la terre, on ne saurait pas poser la question.
Voilà. Donc là, le problème, c'est quoi? C'est que la méthode de fabrication sera comme de l'argile, parce qu'on va utiliser de l'argile pour coller les morceaux, mais, le matériau du four, c'est pas de l'argile. Donc il y a une marloquette, c'est la fameuse marloquette qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Chachami. Rabbi Eliezer Métaer, Rabbi Eliezer est rompu, d'accord? Puisque Rabbi Eliezer, il dit, pour moi, c'est pas un ustensile en argile. C'est un ustensile qui est, il faut suivre donc le matériau. Donc si le matériau est un matériau qui ne prend pas l'impureté, il n'y a pas de problème. Chachamim Métamim, Chachamim il rend impur. Chachamim dit non. Ils disent, oui, c'est vrai que le matériau de l'essentiel du four n'est pas fait en argile, mais ce qui fait tenir le four, c'est quoi? C'est l'argile. Donc, on doit avoir les mêmes restrictions que l'argile.
Le cas de Taher et Tammy, c'est quoi exactement?
Au cas
je rentre un aliment.
Non.
Alors,
à savoir, est-ce
qu'il pourrait se devenir impur?
Voilà, parce par exemple, au contact. Non. Au contact d'un mort, par exemple.
D'accord.
Donc c'est pas la même chose, parce que si c'est un four en argile, la seule possibilité, non, au contraire, la seule possibilité pour un four en argile de le rendre pur, c'est de le casser et de le casser, de le reconstruire. Alors que si c'était par exemple un ustensile qui était construit avec, bon à l'époque vous avez un ustensile qui est construit avec de la terre, mais pas avec l'argile, avec la terre, mais sans faire de l'argile, pas avec le feu. Ou bien il est construit avec des excréments. À l'époque avec des excréments, on était capable de construire des ustensiles. Il est pas mécabel touma, il reçoit pas la touma. Donc il y avait une marque entre Rabbi et les Rachamim, à savoir, bon, peu importe, on va pas trop rentrer dans les détails de ce cas-là, parce que c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter. À savoir, est-ce que il prend l'impureté ou il prend pas l'impureté? Rabbi Lézer, il dit qu'il prend pas l'impureté, c'est-à-dire on considère pas ça comme un ustensile en argile. Rachamim, ils disent non. Étant donné que c'est l'argile qui le fait tenir, c'est considéré comme un ustensile en argile. Vezeu tanur shel Achnai. Et ce four-là, on l'appelle le four de Achnai. C'est quoi Achnai? Mai Achnai. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, chez Kifo Dvarim Kiachnazo, d'accord? Vetim U. Donc c'est quoi le four de Achnai? C'est comme Achnai, c'est un nom d'un serpent. Vous savez, le serpent, Rashi explique, il dit le serpent, il a l'habitude, donc c'est un serpent particulier, il y a beaucoup de serpents qui sont comme ça d'ailleurs, qui ont l'habitude de tourner leur queue de manière à ce que la queue arrive à côté de la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il fait des tours de pirouette comme ça avec sa queue, de manière à ce que sa queue arrive à côté de sa bouche. Donc ce qu'il y avait de particulier dans ce four, c'est que c'est un four dans lequel on s'arrangeait pour que l'extrémité d'en haut soit le plus serré possible. Pourquoi? Pour que la chaleur reste à l'intérieur. Donc on l'appelait le tanour shel Achnai. Pourquoi? Parce que c'est quoi le problème? Le problème était très simple. Le problème était que comme c'était un four qui n'était pas isolé à 100% dans les parois, donc on s'arrangeait pour que au moins en haut et en bas, il soit le plus isolé possible. Donc, par exemple, voilà, on s'arrangeait pour qu'il y ait le moins d'air possible qui puisse rentrer. Puisqu'il y avait de l'air qui rentrait par les extrémités, vous voyez ce que je veux dire? C'est un four qui a été fait en morceaux. Donc, naturellement, il ne peut pas être isolé à 100%. D'accord? Ça, c'est le tanour shel Achnai. Donc, Rabbi Eliezer, il rend impur. Il considère que c'est un four qui ne prend pas l'impureté. Hachamim, il rend impur. Bon, maintenant, on en rentre dans le vif du sujet. Tana, c'est enseigné. Beoto Ayom, ce jour-là. Donc, le jour dans lequel il y a eu cette marloka dans le Beit HaMidrash. Et Shiv Rabbi Eliezer Kol Tshuvot Shebaolam. Rabbi Eliezer a répondu toutes les réponses possibles et imaginables pour défendre son point de vue, qui était apparemment un point de vue très important. Il a même toutes les réponses possibles, des bonnes réponses.
Même le ciel, il a demandé.
Attendez, Velo qui blue et nous, et on n'a pas accepté, les Chachamim n'ont pas accepté, ils ont dit non, on n'accepte pas ton point de vue. Marlem, il leur a dit, I malacha kemoti, si la halacha est comme moi, Charuvze Yochiach, que ce caroubier le prouve. Que j'ai raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Neka charou bimkomo me'ahama. Donc le caroubier s'est déplacé me'ahama, sans couder, c'est-à-dire 50 mètres. Ve'amrela, il y en a qui disent, arba me'otama. Il y a des spectateurs, là, parce que c'est les élèves qui racontent. Il y en a qui disent que c'est pas 100 coudées, d'accord, c'est 400 coudées, c'est-à-dire 200 mètres. Bon. Alors, Amroulo, ils lui ont dit, En mevin raya min charou. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Tu nous as venu une preuve du caroubier? Caroubier n'est pas une preuve? C'est pas une preuve? Bon. Alors, Khazav Amarlem lui a dit, bon, ok, je vais vous amener une autre preuve. Il leur a dit, Imalacha kemoti, si l'alacha est comme moi, Amatamaim yochichu. Il a dit, bon, vous voulez pas une preuve du végétal? Je vais vous amener une preuve de l'eau. D'accord? Donc, Amatam, parce que l'eau, on sait très bien que l'eau est comparée à la Torah. Le caroubier en passant proche, je dis le caroubier. Le caroubier, qu'est-ce qu'on sait du caroubier?
Il vit très longtemps.
Le caroubier, c'est un des arbres les plus solides qui existent dans le monde. Il vit le plus longtemps possible. Il a des racines. Donc déraciner un caroubier, c'est pratiquement impossible. Enfin, ça se fait pas tout seul en tout cas. Donc, il a voulu leur montrer, regardez, j'ai raison. Un caroubier, ça veut dire, vous les Chachamim, vous êtes enfoncé dans le sol, d'accord? Vous êtes enfoncé dans le sol et vous avez des racines. Mais regardez que même le caroubier, quand il faut, il doit se déraciner. Ils ont dit, il n'y a pas de preuve du caroubier. Nous, on pense qu'on pense. Alors, il leur a dit, bon, dans ce cas-là, je vous amène Amatamem Yochichu. Que le cours d'eau prouve. Chazrou Amatamem Lachoream. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un cours d'eau qui avançait d'un côté. Et tout d'un coup, on a vu le cours d'eau qui a commencé à aller de l'autre côté.
À quoi ressemble?
Je sais pas si vous imaginez.
Ouais.
D'accord, il y a l'eau qui avance, tout d'un coup, ça s'arrête, et on va de l'autre côté. C'est marche arrière.
On parle de Rabbi Eliezer Ben Martinez.
Non, c'est Rabbi, non, c'est Rabbi Eliezer tout court, Rabbi Eliezer
Agadol.
Alors, Amroulo, ils lui ont dit, Amélie Raïma Matamaï, il dit non, c'est toujours pas une preuve pour nous. Parce qu'en d'autres termes, il a voulu leur montrer, qu'est-ce qu'il leur a montré par cette deuxième preuve? Il a voulu leur montrer, regardez, vous avez, la même manière que le cours d'eau, il a son cours, et qu'il s'arrête jamais, vous voyez bien que même le cours d'eau, quand il faut, il s'arrête, et il fait marche arrière. Donc en d'autres termes, oui. Vous aussi faites marche arrière. D'accord? Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Amroulo, ils lui ont dit, En nevin raya mamatamaim. On peut pas amener de preuve de amatamaim du cours d'eau. Chazav amar lahem. Donc il leur a dit, bon, ok, dans ce cas-là, on va attaquer un peu plus loin. Im alacha kemoti, si la alacha est comme moi, kotle batamigdash orichu. Que les murs du batamidrash le prouvent. D'accord? Les murs du batamidrash, c'est-à-dire, bon, vous voulez pas accepter le cours d'eau, vous voulez pas accepter les racines. D'accord? Vous voulez pas bouger de, ni de vos racines, ni de votre cours de pensée. Ok, alors dans ce cas-là, les murs du batamidrash vont prouver que j'ai raison.
Ça ne du tout finalement, parce qu'on sait qu'il arrive à déplacer un caroubier. Il peut même déplacer une montagne, ils vont pas.
Non, mais il y avait un message là.
Justement.
Il y avait un message ici. Le message justement, c'était que il faut des fois déraciner les racines. Le premier message. Deuxième message, c'est que des fois, il faut aller à contresens.
Ah ben là, ils sont béton là.
D'accord.
Ils bougent pas là.
Bouge pas. Alors, là, on a un troisième problème. On leur dit les murs du batamidrash, les murs qui nous hébergent. D'accord? Les murs qui sont là, qui le prouvent. Batamidrash.
Il faut les sensibiliser, c'est...
Alors, Itou côté Batamidrash Lipol. Et là, à ce moment-là, les murs du Batamidrash, lui, il leur a pas dit quoi faire. Il leur a dit que les murs prouvent. Qu'est-ce qui s'est passé?
Allô? Oui.
Alors. Les murs du Batamidrash ont commencé à tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Gar, Bahem, Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua s'est mis à leur crier. Il était témoin de cette scène, il leur a crié. Amar Lahem, il leur a dit, Im Talmide Chachamim et Natrim Zedze Balacha, est-ce que parce que les Talmide Chachamim sont en train de se battre l'un avec l'autre dans la Lacha, Atem Matifrem, vous, quel rapport avec ça, qui vous a demandé l'heure? D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'onaflou, Mipnek Vodo Shel Rabbi Yoshua, Velo Zakfu, Mipnek Vodo Shel Rabbi Elazar. D'accord? Donc on dit, les murs, qu'est-ce qui s'est passé? Ni pouvaient tomber plus parce qu'il y a Rabbi Yoshua qui leur a dit, pour qui vous prenez, et d'un autre côté, pour le kavod de Rabbi Eliezer, ils ne pouvaient pas revenir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Vadaïn, Matim, Vamdi, mais c'est les élèves qui racontent, ils disent jusqu'aujourd'hui encore, ils avaient une tour de pise comme ça. Et les murs qui sont restés comme ça, ils ne bougeaient pas.
Mais, c'est-à-dire qu'ils avaient une Zahra, les murs? Les murs, ça réfléchit?
Non, parce que les murs, ça représente. Ça représente ceux qui ont pas emmagasinés, mais qui sont imprégnés des livrets Torah.
Oui, oui.
D'accord, donc ils vont dire, même les murs vont dire que c'est le Beth Amidrash.
Oui, mais ça veut dire, ces murs comme Evan de hier, les pierres qui voulaient...
C'est sûr, on a dit que les
murs, c'est le minéral.
Comme l'envie précédent dit que ça veut dire quoi, quand Shlomo Melech dit que quand ma chère va venir, il dit, Evan Mikir Tizrak, une pierre criera du mur, ça veut dire quoi qu'une pierre criera du mur? D'accord? Il dit, ça veut dire que les pierres vont se mettre à parler, et une pierre va commencer à dire, pourquoi t'es passé à côté de moi, t'as pas dit un Dvar Torah? C'est-à-dire que quand, il t'a dit une bêtise. C'est-à-dire que chaque fois qu'on passe à côté d'un endroit, on imprègne les murs, à côté d'eux. Donc en tout cas, on a les murs, donc ça c'est les élèves qui racontent, il dit, Vadain, Matim, Vomdim, les murs sont toujours là. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont toujours là en suspens. Ni ils peuvent se redresser, ni ils peuvent tomber, parce que pour le cavote de l'un et de l'autre. C'est resté comme ça pendant des années. Chazar va Marlem. Alors, toujours, Rabbi Eliezer, donc toujours, il dit, il se laisse pas faire. D'accord? Parce que là, apparemment, le mur n'a pas marché, puisque le mur s'arrête en plein milieu. Bah. Alors, Chazar va Marlem, il leur a dit, Imalacha Kemoti, ok, dans ce cas-là, d'où on a reçu la Torah? Du ciel, alors on va amener une preuve du ciel. D'accord? Donc, Chazar va Marlem, il leur a dit, Imalacha Kemoti, si la lacha est comme moi, minashamay miochiru, qu'on le prouve du ciel. Qu'on le prouve du ciel. Bon, écoutez, moi, ok, d'accord, vous m'écoutez pas, dans ce cas-là, le même Dieu qui nous a donné la Torah, voilà, Dieu, débrouille-toi. D'accord?
Tout ça pour un cours.
D'accord? Non, parce que justement, Rabbi Eliezer, il avait raison.
Oui.
Rabbi Eliezer, ah oui.
Je peux pas dire ça.
Non, mais attendez, non. Non. Vous verrez que apparemment, il a raison. D'accord? Alors, yatsa batkol, Vamra, il y a une voix qui est sortie du ciel, que tout le monde a entendu. D'accord? Et c'était pas la sorcellerie, on te dit pas que c'est la sorcellerie, c'était une voix qui est sortie du ciel, ça veut dire que, il y a eu un message qui est venu du ciel. Ils ont des canaux de communication avec Kadosh Baruch Hu. Il y a un message qui est venu en direct du ciel, qui a dit quoi? Qui a dit, Malachem etzel Rabbi Eliezer, qu'est-ce que vous voulez Rabbi Eliezer? Shalacha kemoto b'chol makom, la lacha est comme lui partout. Ah. C'est pas seulement maintenant. La lacha est toujours comme lui. Amad Rabbi Yeshua al raglav. Rabbi Yeshua s'est tenu sur ses pieds. C'est une expression pour dire il s'est levé. D'accord. Va Amar, il a dit Lo bashamaimi. La Torah n'est pas dans le ciel. Ça, c'est un verset qui est écrit qui dit Lo bashamaimi, la Torah n'est pas dans le ciel. Alors, attends. Les élèves ont posé la question du Maï, le bashamaimi. Ça veut dire quoi, la Torah n'est pas dans le ciel? Mais la Torah, d'où elle vient du ciel.
Oui.
D'accord. Alors, Amar Abirmiya a dit Shekvar nitna Torah me'ar Sinai. C'est vrai que la Torah vient du ciel, mais une fois que la Torah nous était donnée au mont Sinai, en anu mashgichin bevatkol. On ne fait plus attention aux voix qui sortent du ciel. Une fois que Dieu nous l'a donnée, elle est à nous. C'est à nous de décider.
C'est-à-dire, si on veut changer la loi en bas, on a le droit.
D'accord. Shekvar katav, attention, non, pas
dans les quatre coudées de la phase de la loi.
Shekvar katav ta be'ar Sinai batorah, puisque Dieu, tu as déjà écrit dans le mont Sinai dans la Torah, acharei rabim le'atot. Achar Rabim Lehatot, non pas du tout.
On peut pas.
Parce que c'est Dieu qui nous a dit de pas adapter, on peut pas. Par contre, Dieu nous a dit qu'il faut que dans les cas qu'on ne sait pas, et qu'il y a une marque entre les Rachamim, comment interpréter la Torah, Achar Rabim Lehatot, il faut suivre la majorité. Et donc les Rachamim étaient majoritaires. Alors, Ashkaré Rabbi Nathan Eliyahu, Rabbi Nathan a retrouvé Eliyahu Hanavi. Ah, ben, vous savez, les murs qui tombent, lui, un avis,
bon,
c'est des grands classiques pour eux, ça.
On n'a pas les raisons.
Alors, si, Rachid donne la raison, la marloquette. Mais bon, ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui s'est dit, d'accord? Alors, Amar, il lui a dit, Mayavid Kouchabekou Baishata, qu'est-ce que Dieu est en train de faire à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu fait quand il voit ses enfants comme ça en train de... Les murs qui bougent, etc. Alors, Amar, il a dit qu'à Rieh, vers Amar, il rigole et il dit, Nitsruni Banai Nitsruni, mes enfants m'ont gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette phrase, mes enfants m'ont gagné? C'est-à-dire que qui avait raison en vérité?
Les enfants.
Non, lui.
Qui avait raison en vérité entre Rabbi Eliezer et Khamim?
Les deux avaient raison.
Non?
Ah, il avait raison, mais l'autre avait raison.
Bien sûr.
Khamim
qui a emporté
la
majorité. Il est en train de dire ici, mes enfants m'ont gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il pense?
Ça veut dire que
apparemment Dieu pense que Rabbi Eliezer a raison. Mais il dit mes enfants m'ont gagné, ils ont raison.
Bah oui, la Torah.
D'accord. La Torah était donnée. Alors, c'est très compliqué ce qu'on est en train de dire ici.
Ils ont appliqué la loi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un cas sur lequel la Torah ne s'est pas exprimée. C'est sur ça qu'on va parler. On va amener ça jusqu'à la halakha. On a un cas sur lequel la Torah ne s'est pas exprimée. La Torah ne s'est pas exprimée sur ce cas. Sur le cas de ce four-là, tu peux comprendre comme tu veux. Tu peux le comparer soit au cas de l'argile, soit au cas du bois. Est-ce que tu veux, tu peux comparer. Et donc, on a une marloquette, on a carrément une voix qui sort du ciel. Que personne ne remet en cause. Personne ne remet en cause. C'est-à-dire la même voix qui est sortie du ciel et qui nous a donné la Torah, la même voix qui a parlé à Moshe Rabbeinu et qui lui a dit, donc qui nous a donné les 10 commandements. Nous, on a entendu les 10 commandements. Qu'est-ce qu'on a entendu? On a entendu une voix qui sort du ciel. C'est cette même voix qui a donné à Moshe Rabbeinu tout le reste des commandements. Cette même voix qui sort du ciel, elle dit, écoutez, c'est moi qui vous ai donné les commandements. Là, vous avez une marque sur l'interprétation des commandements. Écoutez, Rabbi Eliezer, il a raison. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Ils disent non. Non, ils n'en écoutent pas. Pourquoi on n'écoute pas? Puisque un des commandements dit que quoi? Acharei Rabbim Lehatot, que suit la majorité. Donc, puisque la majorité n'est pas d'accord, on n'a aucune voix à écouter. Extraordinaire.
Oui, puisque ça remettait tout en cause à la fin.
Bah oui. Alors, on va faire ensemble Tosfot. Tosfot, vous avez, c'est à la droite de la page. Bon. J'espère que...
C'est important qu'il n'ait pas accepté.
Ah, bien sûr, c'est important. Très, très important.
C'est important.
C'est extraordinaire, c'est la première fois que c'est arrivé.
Oui, alors, Rabbi Eliezer il s'est tué quelque part et il devrait être d'accord aussi avec Rachamim par rapport parce qu'il a raison, parce que la majorité n'est pas d'accord.
Rabbi Eliezer, il va se plier à la fin. Mais Rabbi Eliezer, il essayait de les convaincre. Oui, il dit, écoutez, j'ai raison.
Il est convaincu pas par rapport, si tu veux, à des arguments.
Si, il leur a donné d'abord, on dit, il leur a donné tous les arguments possibles du monde. Oui, ça veut dire qu'il les a convaincus.
Si ça marche pas, non, il les a pas convaincus.
Ah si?
Non.
Non, ça veut dire qu'il y avait assez d'éléments pour les convaincre. Mais eux, bon, ils étaient sur leur point de vue.
Bon. Donc eux, ils avaient aussi des éléments, pas d'accord.
Pas forcément, non. Non, on le dit pas.
Attends, ils sont pas bloqués pour embêter Rabbi Eliezer.
Non, c'est qu'apparemment, eux, ils avaient une autre manière de voir les choses.
D'accord.
Et lui, il avait des arguments béton.
Mais eux aussi.
Oui. Mais apparemment, les arguments de Rabbi Eliezer étaient plus forts.
Bah, les exemples qu'ils ont donnés, le caroubier qu'on ne déplace jamais, non, et qui s'est déplacé pour autant.
Non, c'est des témoignages.
Oui. Non, mais il y avait un message.
Si il y avait un message.
Bien sûr.
Ça veut dire que la famille était butée.
Oui,
bien sûr. Et qu'ils étaient en dehors de la raison.
Bien sûr.
Et s'il avait des arguments argile.
Qu'on expliquait. Non.
Béton. Oui,
non.
Mais c'était de l'argile puisque.
D'accord.
Parce que béton.
Bien sûr.
Ils ne sont pas pliés.
Il y avait des messages là. Le cours d'eux qui revient en arrière, etc. Il y avait des messages.
C'est pour nous.
D'accord.
C'est pas pour eux. Ils savent.
Donc, il y avait des messages, mais apparemment, eux, ils ont dit, nous, on a quand même notre manière de voir les choses, et on est majoritaire, Et nous, on pense comme ça, donc c'est comme ça, c'est la manière de voir les choses.
Eliezer, c'est le père de Rabbi Gamliel.
Démocratie.
Rabbi.
C'est le père de Rabbi Gamliel.
Rabbi Eliezer.
C'est le père de Rabbi Gamliel.
Non, c'est pas celui-là, non. C'est Rabbi Eliezer et Gadol, c'est un Rabbi Eliezer. Extraordinaire, hein. Bon. Ça, c'est une Mishnah, en vérité. C'est un Tana, ce Rabbi Eliezer.
C'est le maître de...
C'est un Tana, c'est pas un Amora.
C'est juste la génération
Amora. Donc ça, c'est... Donc, quelle conclusion on tire a priori de cette Gemara pour l'instant? D'accord. Ça, c'est une Gemara qui est dans le Perek Azav, dans Bava Metzia. D'accord. Quelle conclusion on tire de cette Gemara? La conclusion qu'on tire de cette Gemara, c'est quoi? C'est qu'a priori, c'est que la Torah n'est pas dans le ciel, et qu'apparemment, même s'il y a une voix qui sortait du ciel, eh ben, on ne suit pas cette voix, on suit la majorité des Chachamim pour interpréter les textes. Très bien.
On a déjà eu un cas pareil, est-ce que c'est le même cas? Parce que j'avais déjà entendu c'est un cas où...
Ouais, c'est le même
cas, c'est toujours ce cas-là quand on parle. Quand les Chachamim étaient en train de parler, il y a une marque loquette, une bad call est sortie, elle a dit voilà,
un tel a
raison, et les autres Chachamim ont dit
c'est ce cas-là. C'est un cas très connu, c'est le cas du tanour de Arna. Donc maintenant ce qu'on va faire, ça c'est une histoire qui est connue, que je pense que tout le monde a déjà entendu au moins une fois. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va d'abord, on va faire Tosfot dessus, Tosfot qui va questionner sur cette histoire, et après on va aller jusqu'à la Halakha, c'est-à-dire qu'on va passer par Maïmonide, etc. On va voir comment ils ont compris cette Gemara, et qu'est-ce qu'ils ont tiré de cette Gemara. D'accord? On ira même jusqu'au Zohar, etc. Alors, bah oui. Parce que justement, ça la question qu'on va se poser après, c'est que des fois, on a une machloquette entre les poskim, les décisionnaires, et le Zohar. Maintenant, le Zohar ne donne pas tout, en général, le Zohar ne donne pas des raisons logiques. Il dit, bon, c'est comme ça, c'est vient du ciel. Alors qu'est-ce qu'on fait en suivi? Le fait de suivre le Zohar, de suivre un minhag du Zohar aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on suit une voix qui vient du ciel.
Oui.
Vous comprenez que les retombées vont très très loin. Les retombées de cette machloquette vont très très loin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va développer tout ça, vous attachez.
RT.
Alors.
C'est bien comment procéder.
Donc on a ici une. Alors, avant de faire Tosfot, on va lire d'abord ensemble un morceau de la Gemara Eruvin en bas. Vous avez en bas un morceau de la Gemara Eruvin en bas, d'accord. Donc c'est Dafus Gimel à Moudbet. Amar Rabbi Abba Amar Shmuel. Vous allez voir, c'est une Gemara, a priori, qui contredit notre Gemara. Et que c'est la question que tout le monde doit poser. Amar Rabbi Abba Amar Shmuel. Rabbi Abba a dit au nom de Shmuel, Shalosh Shanim Nechleku Bet Shammai Bet Hillel. Pendant 3 ans, Bet Shammai Bet Hillel était en Machloket. Alalu Omrim Alacha Kemotenu. Donc, bien sûr, les uns disaient l'Alacha est comme nous. Valalu Omrim Alacha Kemotenu. Et les autres disaient l'Alacha est comme nous. Et c'est pas seulement qu'ils disaient. Il faut comprendre par là qu'ils avaient, chacun avait des preuves très solides. Yatsta Batkol Vamra, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Les deux disent vrai. D'accord, divrei Elokim Chaim Hen, pardon. Va Alacha ke Bet Hillel. D'accord, mais la Alacha est comme Bet Hillel. Ah, là il y a une voix qui est sortie du ciel. Qu'est-ce qu'elle a dit cette voix? Elle a dit la Alacha est comme Bet Hillel. C'est une voix qui est sortie du ciel.
À ce moment-là, ceux qui étaient de l'école de Beth Hillel, ils ont crié leur tour.
Alors attends.
Ça paraît contradictoire, a priori.
Bien sûr, alors attends. Alors Gemara a dit, Vechi me'achar shelou velou divrei Elokim Chaim, hen. Puisque tu me dis, pardon, que les deux sont divrei Elokim Chaim, sont vrais.
Ouais.
Alors pourquoi la Lacha est comme un? Mipnema zachou Beth Hillel ikvo Lacha kemotan. Pourquoi Beth Hillel la Lacha est comme eux? Mipne shen nochin valouvin ayou. Puisque Beth Hillel était plus gentil, d'accord, et était plus humble.
Plus tolérant, on va dire.
Veshonim divreem. Et chaque fois qu'ils disaient leur avis, toujours ils disaient en même temps l'avis de Beth Shammai, par respect pour Beth Shammai. Donc Veshonim divrehem, Vedivre Beth Shammai. Chaque fois ils disaient leur avis et l'avis de Beth Shammai. Veload, et pas seulement ça. Et là, chez Magdimid, divrei Beth Shammai, les divrehem. Que toujours, avant de dire leur avis, ils disaient d'abord l'avis de Beth Shammai. Ceci dit, le Harizal dit que lorsque Machar viendra, la Lacha sera comme qui? Sera comme Beth Shammai. Aujourd'hui on sait que la Lacha est comme Beth Shammai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité absolue est selon l'avis de qui?
Beth Shammai.
Non.
Bah oui.
Bah oui.
Comme Machar sera là.
Ah bah non, mais aujourd'hui on sait déjà que quand Machar viendra, la Lacha sera comme Beth Shammai.
Oui, mais l'avis sera différent. Oui, mais aujourd'hui, la Torah n'est pas dans le ciel, de la même façon, on dirait que la Torah n'est pas pour le futur.
Non, justement. Non. Ça veut dire que le Harizal explique, il dit que dans le futur, la Lacha sera comme Beth Shammai, parce qu'en vérité, si on voit dans le fond des choses, d'accord, dans le fond des choses, Beth Shammai ont plus raison. On va prendre une marquette classique entre Beth Hillel et Beth Shammai. Marquette classique entre Beth Hillel et Beth Shammai, c'est par exemple sur les bougies de Chanukah.
Ouais.
D'accord? Il y a beaucoup de marquettes. Il y a quand même beaucoup de marquettes. Une fois que, ça serait bien une fois qu'on étudie cette sikha du Rabbi, une très longue sikha du Rabbi, le Rabbi a écrit en 88, dans laquelle il explique qu'il prend plusieurs marloquettes de Beit Shammai, je crois une dizaine, et il explique comment il y a un point, de, en vérité il y a un point de marloquettes entre Beit Hillel et Beit Shammai, et que de ce point vont découler toutes les marloquettes de Beit Hillel et Beit Shammai. Extraordinaire. Je vais juste prendre une marloquette. Marloquette entre Beit Hillel et Beit Shammai. Beit Hillel, ils disent qu'on allume premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3, etc., comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et Beit Shammai, ils disent, d'accord, Beit Shammai, ils disent, non, les méadrines, donc ils doivent allumer 1, 2, 3. Beit Shammai, ils disent non. Ils disent on commence par 8, après 7, d'accord, etc. D'ailleurs, en passant, il y a un remède qui dit que lorsque Yosef a rencontré ses frères en Égypte, il leur a dit « Ayesh lachem av o'ach ». Il leur a demandé, il leur a dit « Est-ce que vous avez un père ou un frère ?» Alors, il y a un, je crois que c'est Balatourin qui explique. Il dit que Av Ohar, c'est quoi? C'est une allusion à cette marloquette de Beit Hillel et Beit Shammai. Av Ohar, c'est quoi? C'est Av, ça veut dire Aleph Bet. C'est-à-dire, c'est la vie de Beit Hillel qui dit que 1, 2. D'accord? C'est-à-dire que le premier jour, on allume deux bougies, puisqu'il y a une bougie plus le Shamash. Et, enfin, ou bien, on peut dire Aleph Bet, ça veut dire 1 et 2. Et c'est 1, 2, donc, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Et la vie de Beit Shammai qui dit non, Aleph Chet. Le premier jour, on allume 8 bougies. Donc, il leur dit, Ayesh Lachem, Av Ohar. Est-ce que vous avez un père ou un frère? Est-ce que vous suivez la vie de Beit Hillel ou Beit Shammai? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un remède pour nous dire, je sais pas s'il parlait de ça, mais pour nous dire qu'il parlait de Divrei Torah.
Oui.
D'accord?
Bon. Tu sais qu'on a cette marloquette à la maison tout le temps, toutes les années.
Alors attends, une seconde. Donc on a une marloquette entre Beit Hillel et Beit Shammai.
Moi j'ai acheté un revolver et je suis tranquille maintenant.
Vous avez commencé à droite?
Non, ça c'est une autre question ça.
Finalement, c'est la même.
Non, non.
Parce que c'est vous la première ou la huitième?
Alors. C'est quoi la marloquette? C'est quoi le fond de la marloquette entre Beit Hillel et Beit Shammai? Le fond de la marloquette entre Beit Hillel et Beit Shammai. D'accord? C'est que le rabbi explique, le fond de la marquette entre Beit Hillel et Beit Shammai, c'est est-ce qu'on suit le potentiel, d'accord, ou est-ce qu'on suit le concret. C'est-à-dire comme ça. Beit Shammai réfléchit de la manière suivante. Il dit, le premier jour, dans le potentiel, on a 8 bougies, donc il faut allumer 8 bougies. Deuxième jour, dans le potentiel, d'accord, quand le miracle, il a duré 8 jours, d'accord, mais dans le premier jour, le miracle, il avait un potentiel de durer 8 jours, donc il faut allumer 8 bougies. Le deuxième jour, le miracle avait un potentiel de durer plus que 7 jours, donc c'est 7 bougies qu'il faut allumer.
Ah, c'est
d'accord. Le troisième jour, dans le Beit HaMikdash, la fiole avait un potentiel plus que de 6 jours, donc il faut allumer 6 bougies. Donc il suit selon le potentiel. Ouais. Beit Hillel ne suit pas le potentiel, Beit Hillel suit le poël, le concret. Premier jour, combien de temps a duré ton miracle? Un jour, alors un jour. Deuxième jour, combien de temps il a duré? Deux jours, eh bien deux jours, alors on allume 2 bougies. Et plus on avance, et plus on remercie Kadosh Baruch Hu pour le miracle qu'on a vu de nos yeux. Et avec ça, le rabbi explique différentes marloquettes. En fait, toutes les marloquettes de Beit Hillel et Beit Shammai, comment toutes les marloquettes de Beit Hillel et Beit Shammai dépendent de ce point. Que Beit Shammai suit le potentiel, alors que Beit Hillel suit le concret.
Ouais.
Et vous comprenez que c'est pour ça que quand Machiav viendra, qu'on arrivera à voir le fond des choses, naturellement, la halakha sera comme Beit Shammai. Parce que dans le fond des choses, c'est vrai que Beit Shammai a raison. Il dit, le premier jour, c'est une bougie ici qui a un potentiel de durer 8 jours, donc le miracle est plus grand le premier jour que le deuxième jour.
Donc il voudrait allumer 8 bougies.
Vous voyez ce que je veux dire?
Les 8 bougies le premier jour.
Oui. C'est qu'il dit, le premier jour, t'as une bougie qui a un potentiel de durer 8 jours, donc le miracle est plus grand. D'accord? Ce qui suit le potentiel. Bon. On n'est pas habitué à réfléchir comme ça. D'accord?
On peut très bien se consumer plus vite que ça.
Très bien.
Bon, maintenant que ça dure 8 jours.
C'est le potentiel. Celui qui va dans le potentiel, ça veut dire, c'est celui que dès le début, il arrive à voir le concret dans le potentiel. On n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça. On n'a pas l'habitude de réfléchir comme ça.
Terre à terre.
D'accord?
Je vois ce que je crois et je crois ce que je vois.
C'est pour ça que,
C'est être terre à terre, mais sauf que c'est une façon de réfléchir.
Tu vois le potentiel, c'est extraordinaire. C'est comme si tu vois un enfant, quand tu vois un enfant, tu dis, quand il est né, il a 80 ans, après la deuxième année, il a 79 ans, la troisième année, il a 78 ans, c'est complètement une autre manière de réfléchir. Nous, aujourd'hui, on réfléchit au jour le jour. Quelqu'un, il a vécu 20 ans, bon, 20 ans, 30 ans, 30 ans, 40 ans, 40 ans. On réfléchit pas comme ça. D'accord? C'est complètement, on n'a pas besoin de réfléchir comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, la halakha n'est pas comme, Beit Shammai. Mais, on sait que quand Machiav viendra, la halakha sera comme Beit Shammai.
Encore plus qu'un anniversaire, d'accord, on sait pas combien de temps on va vivre.
Bon.
Tu peux pas le faire à l'envers.
Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette mara? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on avait une marloquette entre Beit Hillel et Beit Shammai. Ils n'étaient pas d'accord. Imaginez-vous les communautés, etc. Une communauté qui suit Beit Hillel, une communauté qui suit Beit Shammai. D'accord? Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les minagim. D'accord? Bon, mon minag. Mais imaginez-vous, quand c'est pas des marloquettes de minagim, c'est des marloquettes de rabbins qui sont capables de t'expliquer. C'est-à-dire que quand ils se rendent compte, c'est pas un il dit mon minag. C'est un il dit, ça c'est mon minag et je vais t'expliquer pourquoi. Et il te l'explique, il te le décortique. Et l'autre il dit, non, c'est comme ça et je vais te le décortiquer. Ça n'a rien à voir. Imaginez-vous les combats qu'il a dû avoir. Bon. Alors, il y a une voix qui sort du ciel, qui dit quoi? D'accord? Il dit, la halakha est comme Beth Hillel. Apparemment, cette voix est acceptée. Beth Shammai. Attendez. Beth Shammai ont accepté le verdict. D'accord, la voix a dit, les deux ont raison.
Alors, mais, pourquoi, pourquoi dans le deuxième cas?
Alors, la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est pourtant, on vient de voir, dans le Perek Azav, dans Baba Metzia, que... Attends, oui, mais attends, Beth Hillel et Beth Shammai aussi.
Non, bah, si, il y avait une majorité.
Ça, on n'a pas dit ça. La Gemara n'a pas dit.
Oui, c'est ce que je t'ai dit.
Y a pas une...
Dans le premier cas, il y avait une majorité.
Mais là, il n'y a pas une question de majorité, on ne parle pas de majorité, là.
Oui, c'est pour ça que tout le monde a accepté.
Mais pourquoi tout le monde a accepté? On vient de dire que, dans la Gemara, dans le Perek Azav, ce qu'on vient d'étudier, on vient de dire que la Torah n'est pas dans le ciel. Ça veut dire qu'une fois qu'on est en bas, on n'écoute plus personne d'en haut.
C'est pas une question de majorité, c'est une question... Bon, mets-toi un petit peu de...
Tu comprends, il y a une question ici. Alors ça veut dire quoi? Alors est-ce que ça veut dire que dans certains cas il faut écouter une voix du ciel? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que ça veut dire que dans certains cas oui, dans certains cas non? Il faut définir des règles. Et justement, c'est sur ça qu'on va voir que Tosfot va dire quelque chose. Après on verra Rambam, on verra que pas tout le monde est d'accord, parce que il y a une marloquette là. D'accord? Alors on va lire ensemble Tosfot. Loba Shamaimi. Vous savez, donc on prend dans la deuxième référence. Loba Shamaimi. Ça tu poses une question. Il dit... Adama, Perek Kama de Yevamot, ça qu'on a enseigné dans le premier Perek de Yevamot, parce que cette marque que je vous montre dans le traité Eruvin, elle est aussi dans le premier Perek de Yevamot. Da Alacha ke Beth Hillel, là-bas la Gemara dit que l'Alacha est comme Beth Hillel, pourquoi? Mishum de Yatsa Bat Kol, parce qu'il y a une voix qui est sortie du ciel. C'est quoi cette histoire? Comment on peut utiliser une voix qui sort du ciel pour trancher une Alacha? Il y a un problème. Vous comprenez la question de Tosfot? Maintenant qu'on a fait les deux Gemarot, on comprend. Il y a clairement une question ici. Alors il dit, Shaniyacha, c'est différent ici. Dans notre cas, dans la Gemara, dans la première référence qu'on a dit, c'est différent. Pourquoi? Sheba al-Achalok al-Divrei Torah, Dirti v'achare Rabim le'atot. Parce que ici, dans la première référence qu'on a dit, Rabbi Eliezer était en machloket en vérité sur un concept de base de la Torah, qui dit que on doit suivre la majorité. Donc Rabbi Eliezer voulait contester un principe de base de la Torah qui dit qu'il faut suivre la majorité. Il a mis toutes les preuves possibles, mais dans les faits, il contredisait une des mitzvot de la Torah qui dit qu'il faut suivre la majorité. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Les Chachamim ont dit non. Il n'y a personne dans le ciel qui peut nous dire le contraire du mitzvot de la Torah.
Oui, c'est ça.
D'accord? Je répète, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il n'y a personne dans le ciel qui peut nous dire le contraire du mitzvot de la Torah. Étant donné qu'il y a une mitzvot de la Torah qui nous dit qu'il faut suivre la majorité, on est majoritaire, personne ne nous fera dire le contraire. Ah, val atam. Mais là-bas, ad rabat, au contraire, Beth Hillel rova. Ce soir, il nous apprend quelque chose. Il nous dit que Beth Hillel était majoritaire. Ce qui n'est pas écrit dans la Gemara. La Gemara n'a pas dit ça. C'est un nouvel élément que ce soir nous apprend.
Mais alors, en quoi j'ai besoin de...
Alors, attends. Ah, très bien. Bonne question. Il dit, Yaakov, il dit, dans ce cas-là, puisque Beth Hillel sont majoritaires, dans ce cas-là, on n'a plus besoin de la voix du ciel. Pourquoi c'est quoi la marque entre Beth Hillel et Beth Shammai? Il dit, c'est très simple, ce soir. Il dit, ilav, mishum, pardon. Donc, ilav, davam et safkalan, sauf qu'on avait un doute là-bas, i azilan batarova, est-ce qu'on suit la majorité, mishum de Beth Shammai avou harifetouva, puisqu'on voyait clairement, explicitement, que Beth Shammai était beaucoup plus, d'accord, harif, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus pertinent. D'accord, ils allaient beaucoup plus loin. C'est pas seulement piquant, ils étaient beaucoup plus pertinents. C'est-à-dire que leurs arguments étaient beaucoup plus pertinents.
Pourquoi tu prends les Tosfot ici et on parle de Beth Shammai ici comme bah
oui. Tosfot a posé une question avec ça.
Non mais tu prends le Tosfot de Perek Vri de Baba Metzia.
Oui.
Et on parle de Beth Hillel et Beth Shammai donc Perek Rishon.
Bah oui parce que Tosfot il pose une question.
Sur les deux.
Tosfot il pose une question de la contradiction qu'il y a entre cette Gemara et cette Gemara.
D'accord. Et d'accord. Dans celle-là il a posé ça dans celle-là.
Oui dans celle-là. Et il répond. D'accord. C'est quoi la question, la réponse qui...
Là t'étais en train de faire acheter.
Donc qu'est-ce qu'il nous apprend Tosfot? Qu'est-ce qu'il nous apprend Tosfot? Ça, tu nous apprends la chose suivante. Il nous dit que, en vérité, là-bas, on avait, dans l'histoire de Beth Hillel et Beth Shammai, on avait un doute assez particulier. C'est quoi le doute qu'on avait? On avait un doute, parce que d'un côté, Beth Hillel était majoritaire, mais d'un autre côté, on voyait que Beth Shammai était minoritaire, mais qu'il était beaucoup plus pertinent. Vous avez des arguments qui étaient beaucoup plus forts. Donc, les Chachamim de l'époque, les communautés de l'époque, avaient un safek, ils ne savaient plus qui devait suivre. Est-ce qu'il devait suivre Beth Hillel ou Beth Shammai?
C'est quelle époque?
D'accord. La Mishnah. L'époque de la Mishnah. Donc il savait plus qui devait suivre, puisque d'un côté, Beth Hillel était majoritaire. D'un autre côté, Beth Shammai était plus pertinent. Ils avaient des arguments qui étaient plus logiques. D'accord. Donc là, on avait un doute. Donc là, Tosfot nous apprend un nouveau principe. Il dit que dans un cas dans lequel on n'est pas sûr qu'on doit suivre la majorité, dans ce cas-là, on peut se faire aider par une voix qui vient du ciel. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Encore une fois. Tosfot, il a posé une question. Il a dit, je comprends pas, hein, comment ça se fait? Dans la première référence, dans le Pirek Hazav, dans la Gemara Baba Metzi, la première référence qu'on a dit, Daf Nun Tet, on a vu que on n'écoute pas la voix du ciel. D'un autre côté, on a vu que dans l'histoire de la Marquette de Bathilel et le Beth Shammai, on a écouté la voix du ciel. Tosfot, il donne une première réponse, et c'est très simple, il dit, je t'explique. Il dit, dans notre Gemara, dans Baba Metzi, ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Eliezer allait à l'encontre d'une mitzvah de la Torah, qui nous dit qu'il faut suivre la majorité. Et il essayait de faire des tours de force pour essayer d'aller à l'encontre de la majorité. On lui dit, non monsieur, ça marche pas comme ça. Dans les 613 mitzvot de la Torah, il y a une des mitzvot qui dit qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la majorité. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre de la majorité. T'as pas le droit. On t'écoute pas. Dans l'histoire de la Gemara et Rouvine, c'est différent. Parce que là-bas, dans l'histoire de la Gemara et Rouvine, Beth Hillel était majoritaire. Donc, juridiquement, ils avaient assez de poids, même sans la voix du ciel pour avoir raison. Sauf que quoi? Les communautés avaient du mal à se déterminer à écouter Beth Hillel, puisqu'ils voyaient que Beth Shammai était plus pertinent. Ils avaient des arguments qui étaient plus forts. On sentait que c'était des gens qui étaient beaucoup plus vifs.
Majorité, d'accord, quoi?
En nombre. En nombre de Chachamim. En nombre de Chachamim, oui. En nombre de Chachamim.
Disons qu'il était plus d'accord intelligent, Beth Shammai.
Donc Beth Shammai était plus intelligent, était plus vif.
Il n'y avait pas assez de gens.
D'accord. Mais Beth Hillel était majoritaire. Donc, ça veut dire comme ça, dites au Sfot. Juridiquement parlant, si on voit alarquement parlant, Beth Hillel était majoritaire. Donc, de toutes les façons, il n'y avait pas besoin de la voix du ciel. Alors, pourquoi on a eu besoin de la voix du ciel? Parce que les communautés avaient un doute. Elles étaient pas tranquille avec leur choix de Beth Hillel, parce que je disais bon, mais finalement, Beth Shammai, ils sont plus vifs.
Oui, même si
donc, si tu veux, la voix du ciel avait un rôle ici. Pourquoi est venue la voix du ciel? La voix du ciel est venue seulement pour les rassurer. Pour les, vous inquiétez pas, suivez Beth Hillel, c'est la majorité, vous pouvez les
dire. La c'est souvent ça, c'est souvent ça.
C'est pas évident du tout, on verra que le Rambam n'est pas d'accord avec ça.
La Lacha est souvent la majorité qui l'emporte.
D'accord.
Dans toute la Gemara, c'est comme ça.
Oui. Donc ça veut dire que là, Tosfot nous apprend quelque chose de nouveau. Tosfot, il nous dit que Dans quel cas une voix du ciel elle marche, première réponse de Tosfot, c'est quand en vérité, halakhiquement parlant, il n'y a pas de problème, la halakha était déjà comme Beth Hillel, mais on a besoin d'être rassuré. D'accord? C'est comme, je sais pas moi, des fois par exemple, vous avez un jugement, d'accord? Vous avez gagné au jugement, mais vous n'êtes pas tranquille. Vous avez besoin que ce soit validé par quelqu'un de grand, qui dise, bon, t'avais raison. Et des fois on fait quelque chose, on sait qu'on avait raison, mais on n'est pas tranquille, on n'est pas à l'aise. Et tu vas aller voir quelqu'un, tu vas aller lui raconter quelqu'un qui est plus grand que toi. Et tu vas lui demander, tu vas dire, voilà, j'ai fait ça, est-ce que j'ai eu raison? Il va te dire, oui, t'as eu raison. Il t'a pas, c'est pas qu'il t'a donné raison et que sans ses paroles, tu n'avais pas raison, tu avais déjà raison. Mais tu n'étais pas tranquille, parce que tu avais un doute. Bon, il t'a rassuré. Alors là, tout ça, tu dis que le bad call, la voix du ciel, peut avoir un rôle pour rassurer le Ham Israël.
Est-ce que ça veut dire que nous, dans les faits, pour allumer les bougies, on doit suivre donc la halakha, comme tout le monde fait.
Bien sûr.
Bien, si on veut, nous, à la maison, faire comme Beth
Hillel. Ah non, on peut pas. On n'a pas le droit.
Parce que la halakha, c'est comme Beth Hillel.
Même sans la voix du ciel, la halakha était déjà comme Beth Hillel.
La halakha, on sait que c'est pour la majorité.
Non. La halakha était fixée comme Beth Hillel.
C'est pas pour la majorité des gens. Il faut écouter la majorité des décisionnaires.
Même Beth Shammai a accepté l'avis de Beth Hillel.
Oui, mais bien sûr.
Si on sait qu'aussi cet avis, il est bon. Est-ce que, et si nous,
cet avis, il est bon.
C'est pas la halakha.
Non, cet avis, il est bon, mais pas pour maintenant. Quand Machia reviendra, pas pour maintenant. Maintenant, même Beth Shammai a accepté la vie de Beth Hillel. D'accord? Donc ça, c'est une première réponse de Tosfot. Encore une deuxième réponse qui est très intéressante. Il dit Ve'od et encore. Une deuxième réponse. Vous avez dans les mots, bon, c'est un peu petit, je sais. Dekan le yata batkol et la mishung vodo de Rabbi Eliezer. Shamar mina shamam yochichu. Tosfot donne une deuxième réponse. Il dit, peut-être on peut dire qu'en vérité, dans notre cas, en vérité, Dieu ne devait pas se mêler. Dans le cadre de l'histoire de la marque entre Rabbi Eliezer et Chachamim.
C'est ce qu'ils ont dit, en fin de compte, hein.
Seulement pourquoi Dieu, il s'est mêlé?
Il a été obligé.
Pour le cavote de Rabbi Eliezer. Parce que quand Rabbi Eliezer a dit que du ciel, on répond. Alors, du ciel, on a dit quoi? On va le laisser en plan? On peut pas le laisser en plan. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on lui a fait du cavote. Mais, en d'autres termes, du ciel, on savait déjà que de toutes les façons, on n'allait pas écouter cette voix. C'est le vice du vice, ça.
Ça l'a énervé, sûrement.
Est-ce que vous suivez?
Attends, c'est quoi cette histoire?
Est-ce que vous suivez ce que je suis en train
de dire?
C'est-à-dire, il rajoute encore un deuxième élément. Il dit que dans cette histoire, pourquoi la voix est sortie du ciel? Parce que Dieu savait très bien que même avec la voix qui sortira du ciel, de toutes les façons, la halakha ne changera pas. Donc il a dit, bon, on va pour le cas de Rabbi Eliezer, on va lui dire qu'il a raison.
Oui, dire que Rabbi Eliezer a invoqué le ciel parce qu'il savait très bien qu'il avait raison.
Ah, tu vois la réponse de Tosfot là?
Il était convaincu.
C'est Tosfot, il nous dit qu'en vérité...
Ça veut dire que là, la majorité carrée.
En vérité, Rabbi Eliezer, il s'est emporté. Voilà, il s'est emporté. Quelque part, il peut avoir raison. Kadosh Baruch Hu n'a pas voulu lui faire honte. D'accord? Donc, il s'est dit comme ça. De toutes les façons, la halakha sera comme Rachamim. Je connais mes Rachamim. De toute façon, la halakha sera comme eux. Alors, on va donner les, je vais moi donner raison à Rabbi Eliezer. Pour son kavod. D'accord? si Rami m'avait demandé, moi aussi je leur ai dit, vous aussi vous avez raison.
Ça pose un problème. D'accord.
Ça me rappelle une,
ça
me rappelle,
oh, mais une... Comme ça,
ça me rappelle une blague. Une fois, il y a deux personnes, un homme et une femme qui disputent, qui arrivent chez un rave. Ils sont en marloquette les deux. Donc, le mari vient, il commence, il donne son argument, il dit voilà, ma femme a fait ça. Et le rave, il dit, vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Et il dit, bon, madame, qu'est-ce que vous avez à dire? Après, donc, la dame, elle raconte qu'elle a dit aussi.
Marie
dit,
sort.
D'accord? Marie, oui, Marie sort. Elle dit, vous avez vous aussi parfaitement raison. Et bon, il leur donne raison aux deux. Et comme ça, après, les deux, ils partent, ils rentrent chez eux, ils sont tout contents, les deux, ils sont sûrs d'avoir raison. Alors après, la femme du rave, elle vient le voir, elle dit, mais je comprends pas. Je t'ai entendu, les deux, ils sont venus. Et à chacun, tu leur as dit, tu as raison. Il tourne à sa femme, lui dit, toi aussi, tu as raison.
Mais ma parole, c'est une...
Ça veut dire en d'autres termes, c'est exactement la réponse de toute faute. C'est-à-dire que tout ça, tu dis qu'en vérité, si Rahami m'avait demandé à Dieu, il dit, nous aussi, est-ce qu'on a raison? Dieu dit, vous aussi, vous avez raison. D'accord.
Mais bon, la loi, c'est comme ça.
Non, il ment pas. Non, parce que les deux ont raison.
Les deux ont raison.
Mais bon, la loi, les
absolus, les deux ont raison.
Les deux ont raison, mais c'est la loi.
Ça, c'est un point très important à comprendre. C'est pas parce que la halakha est fixée comme un que l'autre n'a pas raison.
On est obligé de...
D'accord?
Si la Torah les met.
En fait, non, pas du tout.
Parce que,
c'est expliqué dans l'introduction du Tanya, que les différents avis qu'on a dans la Torah correspondent aux différentes neshamot qu'on a. Et qu'il y a des neshamot qui sont plus liés vers Chesed, d'autres neshamot qui sont plus vers Gvura. Et donc on a différentes neshamot. Sauf que la halakha va être fixée selon les besoins du moment. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que la halakha va être fixée vers une direction, va diriger vers une direction selon les besoins du moment. Mais ça veut pas dire que l'autre avait tort. Parce que c'est vrai que si tu suis une certaine manière de comprendre les choses, ça existe.
Non, ça veut dire que la voix...
Et c'est pour ça, excuse-moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on étudie des avis qui ont été repoussés dans la Gemara.
Donc la voix dans le
parce
ciel...
Parce que ça existe.
Sinon, on mettrait même pas les discussions... La voix dans le ciel
aurait pu dire alors, Rabbi Eliezer a raison, il aurait pu dire en même temps, et Rami les aurait...
Non, parce que Rami n'ont pas demandé ça, ils n'avaient pas besoin de ça, Rami.
Elle aurait pu le dire.
Alors, d'accord, tu as raison.
C'est Rabbi Eliezer qui a demandé la...
Rabbi Eliezer l'a demandé. D'accord.
Vous touchez là à la théorie des contacts, c'est-à-dire qu'en mathématiques pures, tu peux avoir deux résultats différents pour la même opération.
Oui.
Seulement dans la théorie des quantas. C'est-à-dire elle va à l'encontre de la relativité.
Théorie des
quantas. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire, là, ça m'affole parce que...
Ça te bouleverse.
On dirait qu'ils ont pris...
Théorie de quoi ?
C'est extraordinaire. Parce que c'est une mathématique, c'est une science exacte. Il vient et te dit 1 et 1. Ici, ça fait 2, et là-bas, ça fait 3. Voilà. Et il te le démontre.
Ça, c'est... Il y a des fois que la Gemara a dit...
Pour ça, Gamzou de...
D'accord. Il y a des fois, hein. Il y a des fois que la Gemara a dit sur un enseignement, elle dit, cet enseignement est faux. Bon, là, quand c'est faux, c'est faux. Mais quand la Gemara ne dit pas ça, ça veut dire que les deux sont vrais. Sauf que la halakha va être fixée selon les besoins du moment. Et Dieu va sentir, par exemple, que l'âme Israël, maintenant, a besoin de plus de chesed, de plus de gvura. Bon, c'est... D'accord. Alors, donc, on a ici deux réponses dans Tosfot. Il faut bien comprendre ces deux réponses dans Tosfot. C'est-à-dire, en d'autres termes, Tosfot a juxtaposé deux Gemarot. Une Gemara dans laquelle on nous a dit qu'on n'écoute pas la voix du ciel, que la Torah n'est pas dans le ciel, et une autre Gemara qui nous a dit quoi ? Qui nous a dit que, apparemment, la halakha a été fixée comme Beth Hillel grâce à une voix qui est venue du ciel. Bon, alors comment on peut répondre à ces deux Gemarot ? Tosfot nous donne deux réponses. Première réponse que donne Tosfot, il dit, parce que dans l'histoire de Beth Hillel et Beth Shemaï, Beth Hillel était déjà majoritaire. Donc, de toutes les façons, la halakha était déjà comme Beth Hillel. Le Bat Kol ici, la voix qui est sortie du ciel, avait seulement un rôle rassurante, d'accord, il voulait rassurer le Ham Israël, parce que l'Ham Israël n'était pas très tranquille, parce qu'il disait quand même, Beth Shammah, ils sont plus vifs. Mais en vérité, si on voit strictement parlant, pourquoi la halakha est comme Beth Hillel, ça n'a rien à voir avec la Bat Kol, ça n'a rien à voir avec cette voix, c'est lié au fait que Beth Hillel était majoritaire. Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse de Tosfot, il dit, en vérité, la Bat Kol, des fois, comme ici, Dieu, quand il a fait sortir cette voix du ciel pour donner raison à Rabbi Eliezer, en vérité, il aurait pu faire sortir la même voix pour dire que Rami a raison. Pourquoi il a fait ? Il a fait par respect pour Rabbi Eliezer. Tout en sachant que de toutes les façons, la halakha ne sera pas comme Rabbi Eliezer. Donc c'est pour le kavod de Rabbi Eliezer. Comment Akadosh Baruch Hu fait attention au kavod de Rabbi Eliezer ? D'accord ? Je vais lui dire qu'il a raison, parce qu'il a raison en vérité, c'est vrai qu'il a raison.
Ça va le consoler.
D'accord ? Ça va le consoler, au moins au fond de lui, il va se dire, bon, j'ai raison, mais bon, la halakha n'est pas comme j'ai raison.
Il n'était pas du consoler, Rabbi Eliezer.
Quoi ?
Il n'était pas du consoler.
Oui, c'est vrai.
Ils l'ont mis dehors. On dit que c'est là qu'il y a eu le...
Il aurait pu avoir une fête de mort.
Le truc avec Jonas, ouais. Etc.
Ouais. Il aurait pu être condamné à mort.
Oui.
La Bat Kol, c'est pas Kadosh Baruch
Hu. C'est qui, alors ?
Oui.
Ben, c'est pas Kadosh Baruch
Hu. C'est qui, alors ? Il y a des effets spéciaux avec les sons, mais...
Kadosh Baruch Hu. C'est sûr, c'est Kadosh Baruch Hu. Tu t'en vas, M. David ?
C'est
Ah ben, il y a 10 minutes, on a fini notre émission. D'accord ?
Tu dis pas bad call,
mais parce que c'est un conduit.
Bad call, ça veut dire, bad call, c'est un écho. Littéralement, bad call, ça veut dire un écho.
Ou une fille du ciel.
D'accord ? Non, c'est un écho. Par définition, un écho, c'est quoi ? Un écho, c'est une voix qui vient d'ailleurs. C'est un écho. Un écho, c'est une voix qui vient, par répercussion, qui vient d'ailleurs. D'accord ? Donc on a ici une marloquette, d'accord ? Bon, pardon. Donc on a ici, Tosfot nous a pris une nouvelle base. D'accord. Donc on va essayer de conclure ensemble déjà cette première page. Ok. Donc qu'est-ce qu'on conclut cette première page ? Parce qu'il ne faut pas, si on étudie ça sans conclusion, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on conclut déjà de cette première page ? On conclut, d'accord ? C'est bon ? Alors. Qu'est-ce qu'on conclut de cette première page ? On étudiera la suite la semaine prochaine, Bezrat Hashem. On conclut de cette première page que la halakha ne peut pas être fixée par le ciel. La halakha peut être fixée que par les chachamim, par la majorité. Mais on a appris que quand même, apparemment, la bat kol pouvait quand même jouer un certain rôle dans la halakha. Puisque là, on a bien vu ici que dans la marquette Bet Hillel et Bet Shammai, c'est-à-dire que des fois, quand on est indécis dans la halakha, il y a une voix qui peut venir du ciel pour essayer de nous aider à être plus sûr de soi dans la halakha. Donc en d'autres termes, la conclusion de Tosfot c'est quoi ? C'est qu'une bat kol ne peut pas venir pour définir une halakha. C'est-à-dire Dieu ne peut pas venir dire la halakha est comme ça, ça il peut pas venir. Par contre, si, quand il voit que les chachamim sont indécis dans une halakha, il y a une voix qui peut venir du ciel pour les guider, pour leur dire la halakha est comme ça. Là c'est un grand chidouche qui dit Tosfot, parce qu'on va voir que Rambam n'est pas d'accord avec ça. Selon Rambam, on verra, Rambam il pense que même ça une voix ne peut faire du ciel. Même ça, une voix ne peut pas faire. Une voix du ciel ne peut rien faire du tout. Ne peut même pas nous guider dans une halakha. Rien. Une voix du ciel, c'est purement, on va dire, ésotérique, cabalistique. Bon, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais ça ne peut avoir aucun impact sur la halakha.
Pourquoi il y a cette voix du ciel, là ?
Encore une fois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mitzvot qui n'ont pas forcément, enfin, il y a beaucoup de mitzvot. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui n'ont pas forcément un lien avec la halakha. Non, mais la vie d'un juif n'a pas à faire qu'avec la halakha. Voilà, pour le son kavod, par exemple.
Dans le deuxième cas.
Eh ben, oui. Pour que la majorité des gens, ils disent ça.
Pourquoi ?
D'après le Rambam,
bonne question. Très bien, c'est une question qu'on va devoir voir, ça. Très bien. Donc, là maintenant, la conclusion de Tosfot, c'est quoi ? La conclusion de Tosfot, c'est que on n'écoute pas la voix du ciel pour faire la halakha,
mais
une voix peut nous aider quand on est indécis.
À nous conforter.
À nous conforter ou quand on est indécis. Très bien.
On n'est pas indécis.
Ça, c'est la vie de Tosfot.
On n'est pas indécis dans le deuxième cas. La halakha, elle est comme Beth Hillel.
Si, on était indécis.
Mais on n'était pas tranquille.
Ah non, ça veut dire qu'on était indécis.
Mais non, la majorité avait raison.
Non.
La
majorité avait raison.
Non, on était indécis parce qu'on voyait que Beth Shammai était plus vif.
Oui, mais...
Donc par définition, s'ils sont plus vifs, ça veut dire qu'ils sont partis plus loin dans leur raisonnement. Donc ils sont partis plus loin dans leur raisonnement, ça veut dire qu'ils ont plus de chances d'avoir raison.
Mais ils sont minoritaires.
Oui, d'accord, ils sont minoritaires peut-être. Ils sont minoritaires en nombre, oui. D'accord ? Mais en qualité, ils sont majoritaires. Donc on avait un petit peu ici un conflit entre la qualité et la quantité.
Quand tu dis rabim, ça veut dire...
Tu ce que je suis en train de dire ?
Oui, je comprends.
J'ai compris. On a ici une majorité quantitative et une majorité qualitative.
Oui.
D'accord ? La majorité qualitative, elle est chez Beth Shammai. La majorité quantitative, elle est chez Beth Hillel.
Oui.
C'est un fait. D'accord ? Donc les gens n'étaient... Ils ne savaient pas trop quoi suivre. Oui. D'accord ?
Il faut dire que entre la marque-loquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle était infinie. Chacun avait des arguments pour contrer.
Oui, oui, bien sûr.
Alors que pour Rabbi Eliezer, il en était arrivé à sortir du cadre de la logique.
Non, Rabbi Eliezer aussi, c'est infini. Parce qu'apparemment, il y avait des réponses, mais ça veut dire apparemment...
Après, ils se sont arrêtés. À un moment donné, ils se sont arrêtés.
Bah oui, parce qu'à un moment, il veut tourner en rond. Non, certainement qu'à un moment, il veut tourner en rond. À un moment, ça arrive des fois, tu poses une question, il te répond, et tu reposes, mais tu sens que tu tournes en rond, parce que tout le monde a raison, en vérité. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara la méthode de Khazaradin. Khazaradin, ça veut dire que quand des fois, on tourne en rond. D'accord ? Quand tu as, par exemple, deux versets, l'un qui va contre l'autre, et que les deux ont raison. Ça s'appelle Khazaradin. Donc là, apparemment, on voit ici, d'accord, que selon Tosfot, la bat kol, quand même, peut avoir un rôle déterminant dans la halakha. C'est très important à comprendre ça. Parce que ça voudrait dire que quand, par exemple, on a du mal à fixer une halakha, et que le Zohar, il vient, il nous dit, voilà, une voix qui est sortie du ciel, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on suit le Zohar ou on ne suit pas le Zohar ? Des fois, il y a des cas dans lesquels on a une marloquette entre le Zohar et les poskim. Par exemple, on a une marloquette entre le Zohar et les poskim. Est-ce qu'on a le droit de faire entendre sa voix dans la tfila ? Dans la Mida ? De s'entendre ? D'accord ? Le Zohar dit qu'on n'a pas le droit du tout de s'entendre, même de s'entendre soi-même. Les poskim disent que non seulement qu'on a le droit, mais il faut le faire. On doit au moins s'entendre. Chez Ishma Kolobit Filato. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On suit les poskim ou on suit le Zohar ?
Mais les post-skim, ils connaissaient le Zohar aussi, non?
Les post-skim, c'est les décisionnaires, c'est à peu près, c'est à peu près 600 ans d'aujourd'hui.
Oui.
Il y a beaucoup de marloquettes comme ça, beaucoup. D'accord? Beaucoup, on amènera des exemples, Bezrat Hashem. Donc là, on voit apparemment que selon Tosfot, il nous donnait une première règle, qui est que lorsque on est indécis, on sait pas trop quoi suivre, une batcon, une voix du ciel, quelque chose qui vient du ciel, comme on amènera après le Chida, il parlera de tout ce que le Harizal nous dit, parce que la majorité des choses que le Deminagim du Harizal, c'est vient du ciel, il a pas de raison à l'Afrique. Il dit, voilà, Dieu m'a dit, Léonavi m'a dit. Ok, bon, c'est du ciel. D'accord? Tosfot nous dit que quand on est indécis, on peut suivre cette voie du ciel. On n'a pas le temps de passer à la deuxième page, mais je vais faire un deuxième Tosfot. Deuxième Tosfot. Kachayer va amar nitruni banaï. C'est un Tosfot intéressant, bon, le Tosfot juste après.
Mmh. Il est écrit gros, donc.
Kachayer va amar nitruni banaï. C'est quand on a dit que Rabbi Nathan a trouvé Léonavi, il lui a posé la question, il a dit, qu'est-ce qu'il fait Dieu maintenant? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, Dieu est en train de rigoler, il est en train de dire, rigoler, d'accord? Il dit, mes enfants m'ont vaincu. Alors, toi, tu dis, ah, damar beresh avodazara, voilà, on voit s'enseigner au début du traité avodazara. Miyom shecharav bet amigdash. Depuis que le bet amigdash a été détruit, en srok lifna kadosh bankou. Dieu ne rigole plus. Mm-hmm. Mais comment toi, tu prends au sérieux? Quand on dit que Dieu rigole, pour toi, c'est que Dieu rigole. Ça, tu poses une question. Tu fais vraiment une question.
Mais moi, quand j'ai entendu ce que tu viens de dire par le petit truc, il a fait une dracha là-dessus, il a fait un cours, tu vois. Il dit pas que Dieu est en train de rigoler. Il dit que Dieu est en train de pleurer.
Ah non, carrière.
Il est traduit par en train de pleurer.
Ah non.
Les gens sont convaincus, mais tu sens pleurer de joie, quoi.
Ah non, il rigole.
C'est soit, non, mais je te dis comment il a traduit.
D'accord. Enfin, bon, je sais pas comment il a traduit, mais c'est soit, il dit clairement. Enfin, la Gemara dit clairement carrière. Chiyur en hébreu, ça veut dire sourire. Il est en train de sourire. Et Tosfot, tellement il prend ça au sérieux. Pour te montrer comment pour Tosfot c'est quelque chose de clair et d'évident. C'est pas seulement un exemple, il dit bon, il rigole. Non, c'est sérieux.
Non, rigoler, c'est pas ça. Sourire et rigoler, c'est pas pareil.
Très bien. Tosfot pose une question, il dit voilà, c'est écrit que depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, quelque part, Akadosh Baruch Hu imon ribetzara, Akadosh Baruch Hu est avec nous dans la détresse, et que de la même manière que la Shrina est en deuil, et que nous sommes en deuil, lui aussi il est en deuil, donc il rigole plus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, on peut plus avoir de vrai Simra aujourd'hui. Alors comment c'est que là il rigole? Là, on était après la destruction du Beit HaMikdash.
C'est les mots juifs, ça, non?
D'accord. Comment c'est qu'il rigole?
Parce
que là,
il sourit.
Imaginez-vous la question. Comment c'est que Dieu rigole? J'étais impressionné quand j'ai appris Tosfot, comment pour Tosfot, c'est quelque chose de clair. Il voit devant lui Dieu en train de rigoler. Il dit, mais pourquoi il a rigolé? Et regardez la réponse de Tosfot. Il dit, Aïnou Kavua. Quand on dit que Dieu ne rigole plus, ça veut dire qu'il n'a plus de rire fixe. C'est-à-dire qu'il n'est plus en bon état. Mais là c'était seulement une blague pour Dieu. C'était comme une blague. C'est-à-dire qu'en vérité tu es triste.
Dieu aime les blagues.
D'accord. Mais bon, il y a des moments dans lesquels tu as un petit sourire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très tristes, mais des fois ils ont un petit sourire. Alors Dieu, le Tosfot il répond, il dit là il y avait un petit sourire chez Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu continue à être triste parce qu'on est en galoute. Extraordinaire. Donc on a fait seulement que commencer le sujet.
Et nous on nous demande d'avoir la simcha.
La simcha, comme il dit le Tania, il dit c'est pas, la simcha, c'est pas incompatible, c'est pas incompatible avec le fait qu'on est en deuil, que le Beit HaMikdash n'est pas là. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de parler de Mashiach, etc. Parce que tu crois, on n'est pas content que Mashiach n'est pas là. Mais, on dit qu'on va amener, Mashiach avec la simcha. Et ça veut dire que la simcha et la tristesse ne sont pas contradictoires. Au contraire, elles sont complémentaires.
Ah oui.
Selon la Torah.
On dit qu'on doit toujours.
La simcha, c'est pas le kiff, hein.
Toujours, c'est
autre chose. Sur un exemple. C'est quelqu'un qui est triste, il a raté son affaire. Donc il a envie de relancer son affaire. Il est triste qu'il a raté son affaire. Mais s'il a envie de relancer son affaire, il faut qu'il ait de l'entrain et qu'il ait envie d'avancer. Sinon ça marche pas. C'est pas contradictoire. En même temps, il est triste d'avoir raté son affaire. Et en même temps, il essaye d'être content et il essaye d'avoir de la joie parce qu'il se dit si je suis pas joyeux, j'avance pas, je vais aller en arrière.
D'accord.
C'est pas contradictoire. Alors. Donc ça, c'est la réponse de Tosfot. D'accord?
C'est bien de préciser
tout. On va s'arrêter ici, et Bezrat Hashem la semaine prochaine, d'accord? On étudiera ensemble le Rambam, comment Maïmonide a compris ça. Vous verrez que Maïmonide a compris complètement autrement que Tosfot. Complètement autrement. Oui, selon Maïmonide, la voix qui sort du ciel, ça peut nous donner un peu d'encouragement, etc. D'accord? On verra après comment le Ran, Rabbi Nissim, a compris ça. Bon, on amènera après aussi différentes varotes qui parlent de ça, vous allez voir, c'est très
rationnel. Pourtant, c'est avant Tosfot. Ouais. Maïmonide, c'est avant Tosfot.
Oui.
Pas de beaucoup, hein.
Pas de beaucoup aussi. D'accord.
Très rationnel,
si, quand même beaucoup.
Non.
200 ans.
Un petit siècle. Un petit siècle, 80 ans.